minutes de Radio Classique avec David Abiker.
Esprit libre avec ce matin Routel Krief, éditorialiste à LCI, et l'académicien Marc Lambron que vous retrouvez chaque matin à 7h20 sur Radio Classique pour Et si on parlait français. Bonjour et
bonjour
bienvenue.
David, bonjour
à tous
Marc.
Les deux. On va parler de Manouchian et de Méliné et de Missak avant d'évoquer la dimension politique de l'événement, parce qu'il y en a eu des propos politiques avant, on a parlé de polémique. Je donne quelques repères à nos auditeurs peut-être, hein, parce que il faut rappeler quand même certaines choses. Il est né un 1er septembre 1906 en Arménie. Il réchappe du génocide arménien en 1915, menuisier de formation. Il trouve refuge en France en 1924, où il devient ouvrier tourneur. Il rejoint vite le Parti communiste dans son combat antifasciste. Il prend les responsabilités syndicales qu'on lui connaît. Quand la guerre éclate et que l'armée allemande attaque l'Allemagne, attaque la France, il est arrêté, libéré. Il rejoint les francs-tireurs partisans de la main-d'œuvre immigrée, les FTP Moy, comme on disait à l'époque. Et en 43, il est arrêté, torturé, puis fusillé avec les 22 autres résistants de l'affiche rouge. Voilà, c'est très succinct, mais au moins chacun sait de qui on parle. C'est un destin qui peut encore toucher les Français, Ruth.
Oui, c'est une légende. C'est une figure, c'est un symbole. Et moi, ce qui me fascine, c'est à quel point notre pays aime l'histoire, aime les débats historiques, aime les... et à quel point cette panthéonisation suscite à la fois de la passion, de l'intérêt, des polémiques. Je parle pas de la politique, je parle des polémiques et des discussions entre historiens. Et nous refait vivre évidemment cette période. Mais ce que j'aime dans cette cérémonie, dans le principe d'ailleurs de la panthéonisation, c'est le retour du héros, de la figure du héros. On en a terriblement besoin. Et en l'occurrence, Missak Manouchian, Méliné et les 23 autres, mais tous les résistants étrangers, parce que aujourd'hui, ce sera l'hommage aux résistants étrangers, quels qu'ils soient, et ils ont été nombreux, et ils ont été d'origines différentes, arméniens, juifs, hongrois, polonais, roumains, et tout cela ont été extraordinaires de courage. Ils avaient entre 15-16 ans pour les uns, 35 ans pour les autres. Et il y a eu un coup humain monstrueux. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le précédent chef de la FTP Moy démissionne, parce qu'il considère que le Parti communiste les envoie un peu à l'abattoir dans certaines opérations, avant que Manouchian prenne la tête du réseau. Et on a besoin de revivre cela, parce que on a besoin de se retrouver comme être humain face à ces exploits incroyables qu'on a parfois et souvent oubliés.
Marc Lambron, c'est un patrimoine. Est-ce que c'est un patrimoine commun, un patrimoine communiste, un patrimoine en partage? Parce que chacun a sa mémoire de la résistance. Ouais. Et évidemment, on va oublier de dire que le Parti communiste était resté très attentiste pendant début de la Première Guerre mondiale. Il attendait ses ordres de Moscou. La Deuxième Guerre mondiale, il attendait ses ordres de Moscou avec le pacte de non-agression entre l'URSS et l'Allemagne nazie. Ça s'est décanté en 1941, mais enfin, deux ans, c'est long. On va oublier de dire aussi que de grands nationalistes de l'entre-deux-guerres se sont engagés en résistance et qu'ils étaient préfascistes, maurassiens, antisémites. Enfin, la résistance est une histoire complexe et on en fait une histoire monolithe.
Plus ou moins. Ce qui est intéressant avec Manoukian, c'est comme la figure, c'est un oxymore, c'est le patriote apatride, en quelque sorte. Et au fond, en servant la France, il a servi la noblesse de l'esprit, si vous voulez, la résistance. Bon, alors, la maladie française, évidemment, c'est la cristallisation politique. Donc, on voit bien, en effet, comme vous l'indiquez à l'instant, c'est que si on voulait chercher des noises à Manoukian, et c'est pas le jour, vraiment, mais on pourrait dire que le Parti communiste français, eh bien, de l'époque, c'est le parti qui obéit à Moscou, il y a eu l'Holodomor, c'est-à-dire la grande famille de 32-33 en Ukraine, les purges de 37 et en effet ce pacte germano-soviétique de 39 à 41. Mais de l'autre côté, comme vous l'indiquez aussi, toute l'extrême droite n'était pas à Vichy. Et si vous prenez des figures comme Pierre de Bénouville, comme Daniel Cordier, comme André de Vavrin, le colonel Passy, ce sont des maurassiens qui sont passés, si j'ose dire, à la lessiveuse gaulliste.
Daniel Cordier, secrétaire de Jean Moulin.
Absolument.
Qui est resté très tard antisémite, très tard maurassien, et qui ensuite a compris, mais presque presque après-guerre.
Vous savez, il y a un mot du général de Gaulle, quand il arrive à Londres, il trouve pas mal de gens d'extrême droite qui sont là, des 40, et pas mal aussi de Français juifs, comme René Cassin, comme Pierre Dac, et il dit, en arrivant à Londres, j'ai trouvé la cagoule et la synagogue. Et la cagoule, comme vous savez, c'était précisément ce mouvement d'extrême droite factieux qui complotait contre la République. Bon, alors tout ça se rejoue aujourd'hui, et en effet, avec la question de la présence de Marine Le Pen, ou non. Où était l'extrême droite française entre 40 et 45? Eh bien, elle n'était pas
qu'à Vichy ou à Paris.
Dernière chose, c'est que quand on s'est aperçu que Mitterrand avait eu le parcours qu'il avait, les historiens ont inventé la notion de vichisto-résistant, qui est opérante aujourd'hui. Ouais. Donc, voilà.
Ou de zone grise,
c'est
alors,
complexe.
Il faut savoir que c'est le général de Gaulle qui, quand même, en rentrant, veut effacer toutes ces différences, toutes ces nuances, toutes ces complexités, pour en faire un récit légendaire d'un pays résistant, d'un tout un pays résistant, parce qu'il fallait que vis-à-vis des Américains et des libérateurs, la France soit souveraine. Et donc lui-même a volontairement, en quelque sorte, effacé tout ce qu'on a redécouvert au fil des années. Tous ses collaborateurs, ses différences, le fait qu'il y ait eu des gens d'extrême droite chez les gaullistes, mais aussi des collaborateurs de gauche, etc. Et donc, il y a eu la volonté délibérée politiquement pure de faire un halo comme ça autour à la fois de la résistance et de l'image d'une France qui a toujours été résistance. Et là-dedans, il met les communistes, il met l'extrême droite, etc. Parce que il faut faire bloc. Il a sans doute eu raison.
Il crée une nouvelle chevalerie qui s'appelle les Compagnons de la Libération.
Bien sûr.
Et où on trouve toute la France.
Et en 1951, il amnistie, et il police, et il ripolline cette histoire de France parce que...
J'ajoute une chose qui est
C'est comme ça qu'on fabrique aussi l'histoire.
Très étonnante. Vous savez qu'il y avait deux bourreaux de la Gestapo à Paris qui s'appelaient Auberg et Knochen. Ils ont été jugés en France, incarcérés en France. Le général de Gaulle les a graciés et émancipés en 1959. Si je ne me trompe, quand il revient au pouvoir, au nom du nouvel axe franco-allemand. Donc ce sont des choses aussi qui sont à mettre dans la pesée pour comprendre aussi ce qu'a pu être l'époque, la mentalité. Maintenant, il y a une chose qui me frappe dans cette panthéonisation, c'est qu'il y a qui en face de Manoukian et de Méliné? Il y a Macron. Donc c'est quand même
faites une super transition. Merci beaucoup.
Le protagonisme du président qui adore les célébrations, les inhumations, j'allais dire, et le légendaire français.
Ce qui est paradoxal, Ruth, vous faire travailler là-dessus, c'est ce paradoxe de Macron qui est le président des crises, donc de la gestion de l'instant. Vraiment l'instant, parce que les crises, c'est l'instant, c'est le présent immédiat.
C'est une forme de brutalité.
Qui l'empêche de projeter parfois le pays à long terme. Donc, président de l'instant et président du passé et de l'histoire et du temps long.
Oui, alors il adore effectivement cette célébration. Et en fait, je pense que ça fait partie des attributs incontestés des présidents. Donc, c'est son espace. Comme celui que, enfin, pour ses prédécesseurs, c'est un espace qui lui est totalement consacré, dans lequel il n'est pas discuté, il n'est pas contesté. Et donc, sa décision est totale. Est libre et totale. Mais c'est vrai que dans ce rapport-là, on voit un Emmanuel Macron, pétri, pas vraiment d'histoire d'ailleurs, plus de culture, de littérature, d'art. L'histoire, oui, avec un grand H, mais pas l'histoire politique. C'est pas sa spécificité. Si vous parlez avec d'anciens présidents ou avec un François Hollande ou avec d'autres gens qui connaissent bien Emmanuel Macron, ils remarquent que c'est plutôt un économiste, c'est plutôt quelqu'un qui est baigné par la littérature que par l'histoire politique. Et que parfois, d'ailleurs, quand il dit crime contre l'humanité pour l'Algérie, pour la colonisation, des choses comme ça, on voit qu'en fait, il est pas pétri de l'histoire avec un grand H.
Il y a quelques embardés.
Il y a de temps en temps des choses qui sont incompréhensibles.
On l'a vu au moment des Gilets jaunes et de l'itinérance mémorielle sur le conflit de la Première Guerre mondiale, où il avait évoqué la mémoire du maréchal jusqu'en 1918.
Il est moins là-dedans. En revanche, il est dans une forme de reconnaissance de l'art, de la littérature, et d'ailleurs dans ses panthéonisations, vous voyez un fil directeur, Maurice Genevoix, Joséphine Baker, et malgré tout Manouchian comme un poète aussi, parce qu'il était poète, et c'est vrai que c'est aussi cela qu'on magnifie. Et puis, c'est une projection de lui-même. pour chaque président, c'est une projection de lui-même. C'est une façon de parler de lui au sens de la trace qu'il veut laisser dans l'histoire et de ce qu'il veut dire, de ce qu'il aime, de ce qu'il veut aussi transmettre.
Ma question, Marc Lambron, vous êtes un immortel, vous êtes aussi dans le temps long. Nous avons tous, et je ne trahis pas un secret, plus de 50 ans, sauf route, évidemment.
Merci
donc,
David.
Donc, on est encore dans les manuels d'histoire, on a appris à s'ennuyer, etc., etc. Est-ce que ces commémorations à répétition, ce rôle du président garant du rapport au temps, du rapport au passé, de la réunion des mémoires ou de la synthèse historique, est-ce que ça touche encore des gens qui ont moins de 30 ans?
Macron a moins de 30 ans, apparemment, âge mental. Je ne sais pas.
Moi, je crois que oui.
Probablement quand même. Peut-être que ça les rend perplexes. En même temps, il y a quand même beaucoup de pédagogie qui est faite. C'est ça aussi, c'est une sorte de leçon.
Ah, oui.
Et Macron se comporte comme un instituteur national. Mmh. Et Ruth disait en effet qu'il a un rapport avec l'histoire. Alors, Macron, il y a l'inspecteur, c'est l'omniprésident. Donc, il y a l'inspecteur des finances. Vous connaissez la définition de l'inspection des finances par le collabo Paul Morand. Tous les chiffres sont exacts et le résultat faux. Bon, mais c'est aussi l'élève de Ricoeur. Et en effet, vous parliez du parcours mémoriel 14-18. Une des premières choses qu'il a faites en 2017, c'est d'aller à Oradour avec le dernier survivant. On dit qu'il a un roman dans ses tiroirs. C'est un roman historique sur les Aztèques. Et le monument restauré qu'il va laisser, c'est Villers-Cotterêts. C'est-à-dire, là aussi, c'est la langue et c'est l'histoire de la langue. Pas oublier qu'il est natif d'Amiens, hein, qui est quand même ville royale, ville de cathédrale. Et probablement depuis Mitterrand, je pense que le président qui a le rapport le plus intime avec l'histoire de son pays.
Moi, je crois beaucoup à la vertu pédagogique de ces cérémonies. Alors, je suis totalement pour, parce que ça fait une semaine qu'on parle de l'affiche rouge, de Manouchian, du réseau, de ces... Encore une fois, ces passions que ça déchaîne, les discussions, les débats, la façon dont va être transmise la cérémonie.
Et peut-être des cours d'histoire dans les classes
alors
aussi.
Alors, voilà. Et là, je suis alors à fond pour, parce que ça permet tout d'un coup une leçon d'histoire pour tout le monde, pour le grand public et pour les jeunes. Et moi, j'adore ces moments justement où on se retrouve tous autour de Simone Veil quand elle est panthéonisée, de Robert Badinter qui va l'être mais qui a reçu un hommage national, de Manouchian et de ses compagnons, parce que les 23 noms vont être gravés aujourd'hui. Ça, c'est très important. Ça a été un débat, c'était pas évident. Ça a été le fruit d'un dialogue entre historiens et avec la présidence, et finalement ça a été obtenu et c'est très important. Donc tout ce qui est derrière tout cela, les compositions artistiques qui vont se dérouler ce soir, le déroulement de la cérémonie, tous les commentaires qui ont lieu, moi je suis mais totalement enthousiaste, parce que je sens que ça touche au-delà des milieux, au-delà des catégories, au-delà des gens, et je suis vraiment très favorable à ça.
Alors permettez-moi sinon un bémol, en tout cas quelques remarques sur le Panthéon, c'est-à-dire ce besoin de nécropole nationale.
Qui n'est pas d'ailleurs strictement français. On a consacré un sujet dans le journal de 8h sur les panthéons étrangers.
C'est-à-dire un mastaba où l'on fait concubiner des morts illustres. Voltaire est en face de Rousseau, qui plus est dans une ancienne église. Et là, il y a là quand même un fétichisme de la dépouille plutôt que de l'esprit, qui d'ailleurs attirait le plus nécrophile de nos présidents, qui était François Mitterrand, et qui est célèbre son inauguration. Bon, Jacques Lacan, le psychanalyste qui tenait son séminaire en face à la fac de droit, avait surnommé le Panthéon le vide-poche d'en face. Bon, c'était pas très respectueux. Alors, vous savez que Philippe Muret a montré comment le socialisme naissant au XIXe siècle se passionnait pour les tables tournantes. Il y a un côté spirit là-dedans. Il y a des incantations spirit. La plus belle, c'est Malraux 64 pour le transfert de Jean Moulin. Il y a des secondes obsèques. C'est-à-dire penser que parce que les veuves sont là. La veuve de René Cassin, la fille et la veuve de Malraux étaient là, les enfants de Simone Veil. Et je vous dirais quand même qu'à cette nécrophilie, il y a peut-être un antidote, et là, permettez-moi une petite annonce, c'est l'Académie française. Car là, vous avez aussi une coupole, mais il n'y a pas des morts, il y a des immortels. même si les immortels sont mortels.
Mais ils sont bien vivants.
Ils sont bien vivants pour un temps, et j'annonce qu'il y a 4 ou 5 places vides. Les candidatures sont
appel à candidature.
Recevables.
Je cite
plus
rarement.
Facile d'y entrer de son vivant que d'entrer au Panthéon étant mort.
Je cite assez rarement des messages d'auditeurs, mais celui-là m'agace prodigieusement. Alors, je vais vous le lire. « Bonjour, les Français se foutent des cérémonies, en fait. Il n'y a que votre milieu que cela intéresse. » Je trouve que c'est aller un peu vite en besogne avec l'histoire de France, avec le passé, que de proférer et d'écrire des jugements aussi définitifs, je le dis, cas, à nos auditeurs qui sont en général très respectueux et qui adorent l'histoire.
Votre milieu, il parle de carbone et spirito.
J'en sais rien, mais je trouve que
c'est quoi.
Il faut le déplorer parce que.
Un peu violent.
Et il faut le déplorer parce que l'histoire, c'est ce qui fait la nation, c'est ce qui fait notre union, c'est ce qui fait que quand on se rencontre dans la rue, on se dit bonjour et on a les mêmes repères et qu'on vit ensemble malgré nos clivages, malgré nos différences.
Malgré le changement d'entraîneur de Marseille. C'est ce qui intéresse ce monsieur plus que les Manouchians.
Je ne sais pas ce qui l'intéresse, mais ça n'est même plus une opinion quand on reçoit des messages comme cela.
Oh, il est très en colère, David.
Mais il faut jouer un peu les gendarmes de temps en temps. Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés à 15h. Je m'étais engagé dans l'armée de libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Il écrit ça à quelques heures, quelques jours avant sa mort. Le jour de sa mort, pardon.
Il ne pensait pas que le drapeau français est satanique, lui.
Non, alors justement, puisque vous parlez du drapeau bleu, blanc, rouge, on a eu cette polémique là sur le drapeau. Le drapeau français satanique par l'imam de Bagnoles sur 16.
C'est là que, et je vais faire une ellipse, mais c'est là que considérer que cet hommage à Manouchian veut dire un hommage à tous les immigrés par principe et critiquer Macron pour sa loi anti-immigré, dire que là il se contredit en rendant hommage à Manouchian, enfin faire ce raisonnement politicien est très choquant et très agaçant.
Un dernier mot, Marc Lambon.
Cet imam est merveilleux. D'abord, on est en zone atomique. Bagnoles sur 16, c'est la ville dortoir de Marcoule, donc il y a de la centrale nucléaire. C'est à la fois Molière et Freud. Molière, parce que vous vous souvenez de la turquerie du bourgeois gentilhomme, mais aussi du faux bigot, les sophismes du Tartuffe. Nous avons un Tartuffe salafiste. Et alors, pour se défendre, il a dit c'est un lapsus. Mais un lapsus, en principe, c'est bref. Là, le lapsus dure 10 minutes, donc il invente le lapsus chewing-gum, le lapsus à rallonge. Et deuxièmement, le propre du lapsus, c'est de révéler une vérité. Or, qu'est-ce qu'il dit pendant 10 minutes? C'est précisément que le drapeau français est satanique. Et ensuite, il a démenti. On est encore dans Freud, la Verneinung, la dénégation, qui est également un concept de psychanalyse. Donc, plutôt le psychiatre que le ministre de l'Intérieur.
J'aimerais qu'on se sépare avec une musique qui, à chaque fois, me fait frissonner. Ce ne sera pas le chant des partisans, mais le chant de cet instrument avant arménien, le duduk. Car Manouchian était arménien, et parce que le duduk, c'est magnifique. Route, Marc, à la semaine prochaine.